Alors, deuxième point. Il y a nécessité, me semble-t-il, pour qu'un couple dure, qu'il y ait des caractères propres. Des caractères proches, pardon. Des caractères proches. Hein. Très souvent, on souffre soi-même de sa propre nature. Et alors, la tentation est grande de choisir quelqu'un qui a la nature absolument opposée à la nôtre, en pensant que ça fera équilibre, que ça fera complémentarité. Hein. Eh bien, c'est à l'usage, il me semble que c'est un mauvais choix de prendre quelqu'un qui est à l'opposé de soi. Hein. Parce que qu'est-ce que vous voulez attendre de quelqu'un avec qui vous vous ennuyez, ou que vous-même ennuyez, ou que vous ennuyez vous-même, vous voyez, hein. Donc, il faut une certaine complémentarité, homologie des caractères. Alors, attention, je dis bien des caractères, je dis pas du tout du niveau de culture, hein. Je dis des caractères, hein. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le niveau de culture. Il y a un roman de Pascal Lainé qui s'appelle La Dentelière, qui a été porté au cinéma par Claude Goretta. Vous l'avez peut-être vu avec Isabelle Huppert. Bon, c'est une coiffeuse, et puis un jeune intellectuel qui décide de se mettre en couple avec cette pauvre coiffeuse. Et très vite, quand il reçoit ses copains, elle n'a rien à dire, et alors elle s'enferme dans le silence, dans le mutisme, et à la fin, ça devient pathologique, elle devient schizophrène. Voilà. Bon. Eh bien, je pense que ce jeune homme a très mal, apprécié la situation. Parce que c'est vrai qu'une coiffeuse shampouineuse n'a pas le niveau de culture, si vous voulez, d'un agrégatif, par exemple. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça l'important. L'important, c'est l'intérêt que l'on porte aux choses. Hein. Et donc, c'est criminel d'avoir fait comme a fait le héros de la Dentelière. Alors la Dentelière, pourquoi? Parce qu'elle fait penser au tableau de Vermeer à la fin, murée dans sa solitude, elle ne parle pas, etc. Alors c'est criminel, ça. Quelqu'un peut ne pas, ça n'a rien à voir la culture. Par contre, l'intérêt aux choses. Hein, quelqu'un qui s'intéresse, je ne sais pas, à la nature, aux nuages, ou aux arbres, ou aux choses comme ça, ça n'ira pas avec un hyperactif, si vous voulez. Vous voyez, bon, ben, il me semble qu'il faut choisir ça, mais pas la culture du tout. Hein. Alors, un point aussi qui m'est très cher. Que j'aime beaucoup, c'est que l'amour doit s'opposer totalement à l'amour propre. À l'amour propre. Hein. Voilà. Hein. Donc, l'amour propre, c'est le souci de représentation sociale. Hein. Voilà. C'est l'asservissement au regard des autres. Sartre nous dit, l'enfer, c'est les autres. Quand vous vivez sous le regard des autres, c'est-à-dire quand vous avez peur du « quand dira-t-on », vous n'êtes plus vous-même. Vous voyez, hein. Donc, entre l'amour propre, c'est-à-dire la représentation sociale, votre réputation, ce que les gens pensent de vous, et l'amour, il faut pas hésiter une seconde, il faut choisir l'amour, hein, et se moquer complètement de ce que disent les gens. Vous savez ce que disait Sacha Guitry, hein, si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Hein. Bon, il faut se moquer complètement de l'opinion et des gens. Vous savez, la vie est courte, on n'a qu'une vie, et donc le problème, c'est comment allons-nous vibrer à l'intérieur? Nous n'allons pas, si nous dépendons toujours du regard des autres, hein, alors si on nous représente par exemple que le partenaire que nous avons choisi n'est pas bien, etc., ou qu'on est ridicule avec lui ou avec elle, eh bien, on a tort de s'en formaliser. L'exemple type est celui de Valmont, dans Les Liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. Vous savez, Valmont attache une très grande importance à l'opinion des autres. Alors, il a une réputation de séducteur, aucune femme ne lui résiste, etc. Et alors, à un moment, il tombe amoureux de la présidente de Tourvel, mais la marquise de Merteuil, par jalousie, par méchanceté féminine aussi, lui dit qu'il est ridicule, justement, d'être tombé amoureux et qu'il est infidèle à sa réputation de grand séducteur. Et elle lui dicte une lettre atroce, une lettre de rupture, hein, on se lasse de tout mon ange, c'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute, etc. Et Valmont a la sottise d'envoyer cette lettre, parce que il veut, par là, la Merteuil lui étant un piège. Elle dit, est-ce qu'il aura la sottise d'envoyer cette lettre, qui effectivement va réduire l'autre en cendres, hein, bon. Eh bien, il le fait par souci du quand dira-t-on, de sa réputation, etc. Eh bien, après, effectivement, la Merteuil entre Couvrant et puis Valmont se bat en duel avec le chevalier Danceny, enfin, ça s'achève, vous connaissez la fin, hein, la mer, et alors, avant de mourir, il dit au chevalier Danceny, croyez-moi, vicomte, on n'est heureux que par l'amour. Hein. Donc il s'aperçoit qu'il a eu tort, il a eu tort, justement, d'envoyer la lettre, il a eu tort de sacrifier l'amour à sa réputation sociale. Hein. Je pense aussi aux deux grands romans de Stendhal, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Vous savez que dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel est un ambitieux. Hein. Eh bien, il aime Madame de Rênal au début, il la séduit, son amant et maîtresse, bon. Mais puis après, il va dans le monde, il monte dans la hiérarchie sociale, etc. Et il l'oublie, hein. Et puis après, lorsqu'il est en prison, avant de mourir, il se rend compte que son seul amour a été son premier amour, cette Madame de Rênal. Et donc, il se rend compte que l'ambition ne rend pas heureux. L'ambition ne rend pas heureux. L'amour rend heureux, mais pas l'ambition. Hein. Et pareillement dans La Chartreuse de Parme, c'est toujours en prison. Fabrice Del Dongo se rend compte que il n'y a que l'amour qui peut lui apporter le bonheur. Et que, hélas, c'est trop tard maintenant. Il l'a sacrifié. Alors, autre exemple. Ça va, c'est pas bon. J'ai un chapitre dans Du bon usage de l'amour qui s'appelle Les deux moitiés du chemin. Bon, les deux moitiés du chemin. Alors là, il faudrait qu'on en discute, hein, ensemble. Je traite de la différence psycho-affective de l'homme et de la femme dans la relation amoureuse. Hein. Vous voyez, il me semble qu'hommes et femmes ne vivent pas l'amour de la même façon. Hein. Il faudra en discuter, mais il me semble qu'ils sont situés sur les deux rives d'un grand fleuve qui les sépare et qu'ils doivent l'un et l'autre faire la moitié du chemin pour se rencontrer. Alors j'aimerais bien que la discussion s'engage sur ce point. Et je vais vous lire donc un passage de Flaubert dans Madame Bovary où on voit bien la différence entre l'homme et la femme. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Emma s'abandonne à Rodolphe pour la première fois. Hein. Alors je lis. Les ombres du soir descendaient, le soleil horizontal passant entre les branches lui éblouissait les yeux. C'est Emma, hein. Ça et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris en volant eussent éparpillé leurs plumes. Le silence était partout, quelque chose de doux semblait sortir des arbres, elle sentait son cœur dont les battements recommençaient, et le sang circulait dans sa chair comme un fleuve de lait. Alors elle entendit tout au loin, au-delà du bois, sur les autres collines, un cri vague et prolongé, une voix qui se traînait, et elle l'écoutait silencieusement, se mêlant comme une musique aux dernières vibrations de ses nerfs émus. Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassées. Vous voyez la différence, hein? Elle est tout énamourée, comme on dit, j'aime bien ce mot énamourée, c'est-à-dire dans toutes les harmoniques, toutes les modulations de son orgasme, hein? Et puis Rodolphe, qu'est-ce qu'il fait, hein? Le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassées. Voilà, hein? Donc Robert Grace, un auteur anglais, un essayiste, un poète anglais, disait « Man does, woman is », c'est-à-dire « l'homme fait, la femme est hein, ». Voyez. Donc, je crois que Flaubert a bien montré, il n'a rien démontré, mais il a montré avec cette scène la disharmonie chronologique des orgasmes et le fait que l'homme et la femme ne sont pas logés à la même enseigne de ce point de vue, vous voyez hein. Lui, il bricole, il allume un cigare, etc. Hein. Alors que elle, les colibris, c'est très bien, très beau ce passage. Les colibris éparpillant leurs plumes. Donc c'est dans Madame Bovary de Flaubert. Donc, vous me direz, j'aimerais bien qu'on en... Est-ce que j'essentialise masculin et féminin? Est-ce que je défends des stéréotypes, là? Je sais pas. Personnellement, je ne pense pas. Mais beaucoup de féministes ne seraient pas d'accord, vous voyez, avec ce que je dis, hein, dans lequel il y a une différence. Alors, puis ce don total, est-ce qu'une femme peut le donner, parce qu'elle est dans la vie, elle donne la vie, donc elle donne, à la fin de l'éducation sentimentale, dans l'avant-dernier chapitre, lorsque Frédéric voit Madame Anderson, chapitre magnifique, il avait pour Kafka la grandeur du décalogue de Moïse, vous voyez, chapitre magnifique. Je ne peux pas le relire sans avoir des larmes aux yeux chaque fois, hein. Madame Arnoux, alors c'est un grand amour platonique entre Frédéric et Madame Arnoux. Madame Arnoux dit, j'aurais voulu vous rendre heureux, vous voyez. Alors ça, c'est typiquement féminin, me semble-t-il, hein. Bon, un homme peut s'efforcer de rendre heureuse une femme, ça c'est sûr. Mais cette idée d'un don, hein, est totale, est difficile. Et alors, pour revenir dans quelque chose de plus prosaïque, je pense que ce qui peut poser le problème dans un couple, entre l'homme et la femme, hein, c'est l'apparition des enfants. Hein. Donc, l'homme, d'un point de vue masculin, je parle que de ma propre expérience, peut se sentir négligé, oui, être jaloux, en quelque sorte, de l'enfant qui vient de naître. Dans Oedipe Roi, dans le film de Pasolini, on voit le regard de l'aïeul sur le berceau d'Oedipe, on voit un regard de haine. Parce que le père, ça c'est le problème de l'Oedipe, sent dans son enfant son propre assassin, en quelque sorte, vous voyez. Bon. Mais il faut que les hommes et femmes là-dessus s'entendent bien. Une femme, elle donne à ses enfants, elle n'a pas le sentiment, me semble-t-il, d'enlever quoi que ce soit à son compagnon. Hein. Bon, puisqu'elle donne, c'est une surabondance de dons, si vous voulez. Alors que l'homme qui n'est pas capable d'un don si grand, puisqu'il n'est pas dans la vie, lui, c'est la femme qui est dans le grand cycle de la vie, qui la transmet, etc., il peut se sentir, négligé. Et alors, ça peut après virer à l'aigre, parce que la femme, surtout s'il y a déjà une mésentente initiale, ou un manque d'entente complète initialement, alors l'homme se sent négligé, peut-être il ira voir ailleurs, etc. La femme va se replier sur son enfant, hein, comme il se voit dans toutes les pièces de Fedot, par exemple. Hein. Chez Fedot, on voit la mère, que ce soit dans On purge bébé, ou bien dans Mais ne te promène non pas toute nue, hein, la mère qui dit mais que la chair de ma chair voit ma chair, quel mal y a-t-il, vous voyez, la chair de ma chair. Bon, c'est-à-dire, voilà. Donc, on en rit chez Fedot, mais le fond est tragique quand même, hein. On en rit, mais bon, voilà. Alors, donc il faudrait s'entendre là-dessus. Et alors, le dernier point, c'est qu'il faudrait essayer de préserver les commencements dans le déroulement de la relation. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le roman de Pascal Jardin, Le Zèbre. Vous l'avez pas lu, ça, hein. Bon, pour éviter justement l'accoutumance, eh bien, l'homme décide d'essayer de retrouver le début, hein, avec sa compagne, hein, lui donner un rendez-vous dans tel lieu, etc. Vous voyez, comment faire pour que ça soit aussi beau que lors du premier jour? Peut-être, par exemple, vous voyez à nouveau celle que l'on tutoie maintenant, celle ou celui que l'on tutoie maintenant. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je sais bien que maintenant, on se tutoie tout le temps. Mais quand on passait du vous au tu, c'était magique. Hein, c'était comme la magie du premier baiser, si vous voulez. Hein. Deux grands yeux, démesurément agrandis contre nous-mêmes. Bon, c'est une distance qui disparaît. Alors, on s'habitue au tu. Mais pourquoi pas revenir au vous, hein? Je t'aime, je vous crois. Hein. C'est la fin de La sirène du Mississippi de Truffaut. Hein. Deneuve, Depardieu et dit ça à Deneuve. Pourquoi pas? Ou bien les pas de Valérie. Attendez, j'ai dit Depardieu, je me trompe. Dans La sirène du Mississippi, qui est-ce qui joue le vous l'avez pas vu? C'est un roman de William Irish. Hein. Belmondo, voilà, c'est Belmondo. Belmondo. Vous voyez, je me suis trompé. C'est Belmondo. Mais dans les pas de Varie, tenez, je vais vous dire encore un poème. Hein. Tes pas, enfant de mon silence, doucement, saintement placé, vers le lit de ma vigilance, procède muet et glacé. Procède, c'est-à-dire s'avance. Hein. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux tes pas retenus, Dieu, tous les dons que je devine, viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser. Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Vous voyez, ne hâte pas, tu, cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Vous voyez, donc il me semble qu'on peut essayer hein, de vous voyer. Alors peut-être, ou alors lui envoyer une lettre. Hein, c'est beau une lettre. Hein, c'est mieux que un courriel ou tout ce que vous voudrez. Une lettre par la poste qui vient par la poste. Vous voyez. Donc voilà, pour essayer de retrouver. Parce que de toute façon, il faut jamais trancher ce qu'on peut encore dénouer. Hein, quand moi, je suis Alexandre a tranché le nœud gordien, hein, mais on peut essayer quand même de dénouer quelque chose hein, avant de couper. Hein, donc, essayer d'analyser et voir, parce que sinon, vous rompez. C'est un peu comme Gribouille qui, par peur de la pluie, va se noyer, vous voyez, hein, pour en fuyant la pluie. Alors, je viens à la gnose. Qu'est-ce que c'est que la gnose? C'est contre le christianisme doloriste paulinien. Contre le christianisme eschatologique, c'est-à-dire qui vise un jugement dernier, qui pense à un jugement dernier, etc. La gnose, le christianisme gnostique, qui est très minoritaire, bien entendu, qui est celui que je défends, préconise le retour au commencement, revenir au commencement, qui permet la réunification. Là où est le commencement, là aussi sera la fin, dit l'évangile selon Thomas, sur lequel j'ai écrit un livre. Je vous lirai tout à l'heure, pour terminer, avant de vous donner la parole, un très beau poème de Prévert sur ce retour au commencement. Mais dans ma source intérieure, dans le livre La source intérieure, le chapitre La source et l'origine, indique comment on peut essayer de revenir à ce commencement. Alors, dans la dernière partie du livre, j'ai dit que la vie, finalement, dans la vie, tantôt on s'exalte, hein, dans la passion, tantôt on se banalise, vous voyez. Et alors on peut supporter très mal ce passage de l'exaltation à cette banalisation, parce que dans la banalisation, l'entropie règne, etc. Hein. Donc ce sont deux excès symétriques. La poésie de l'exaltation, la prose de la banalisation de la vie. Hein. Bon, le syndrome des chaussettes sales, si vous voulez, etc. Voilà, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la clé? C'est très simple. La vie, c'est comme une TSF, si vous voulez, autrefois. Hein. Vous avez parfois des moments de musique sublime, Mozart, Bach, etc. Et puis après, vous avez le viol des parasites, des grésillements, vous voyez. Alors, les interférences, les miaulements des ondes folles, etc. Mais dans la vie, on ne peut pas zapper, on ne peut pas choisir. On voudrait avoir toujours Mozart et Bach, on ne voudrait pas qu'ils soient violés par les parasites. Hein. Mais non, on est obligé de tout prendre. Alors, il faut prendre au sérieux ce qui en vaut la peine et rire du reste. Hein. Regarder les choses en farce, si vous voulez, hein, voilà, comme disait Scoutener. Et c'est pour ça que la meilleure qualité d'un être, hein, en général, la meilleure qualité, c'est l'humour. Hein, l'humour. Donc, je termine en comparant l'amour et l'humour, si vous voulez. Hein. Donc, un humoriste n'est pas psychorigide. Hein. Bon, comment faire rire un paranoïaque? Amusez-vous, essayez de faire rire un paranoïaque, c'est difficile. Hein. Bon, mais l'humoriste, lui, n'a pas de psychorigidité et il faut savoir mettre en œuvre cet humour. Vous savez, l'humour, c'est comme les essuie-glaces hein, d'une voiture. Il n'empêche pas la pluie de tomber, mais il permet d'avancer. Les essuie-glaces permettent d'avancer. Hein. Bon, la voiture avance, la pluie, bon, on n'y peut rien. Alors, finalement, j'avais conclu avec deux vers de La Fontaine hein, sur Eros et Agapé. Hein. Il s'agit de Philémon et Baucis. Mais après, je vais vous lire un beau poème de Prévert. Philémon et Baucis, c'est le mythe des vieux amants. Hein. Bon, Philémon et Baucis, chez La Fontaine. L'amitié modéra leur feu sans les détruire, et par des traits d'amour sut encore se produire. Pardon. Vous voyez, l'amitié modéra leur feu sans les détruire, et par des traits d'amour sut encore se produire. Vous voyez. Donc, l'amitié, c'est peut-être agapé, hein, mais il y a aussi des traits d'amour, hein, qui fait que, bon, comme dit Brel dans Deux Amants, il faut parfois bien du talent hein, pour vivre vieux sans être adulte, comme il le dit. Hein. Voilà. Alors maintenant, avant de vous donner la parole, je vous dis le début du poème de Prévert, qui s'appelle « Cet amour », c'est dans Parole. Hein. « Cet amour, si violent, si fragile, si tendre, si désespéré, cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps quand le temps est mauvais, cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir et si sûr de lui, comme un homme tranquille au milieu de la nuit, cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir, cet amour guetté parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, cet amour tout entier, si vivant encore, et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien, celui qui a été, cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé, aussi vrai qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivant que l'été, nous pouvons tous les deux aller et revenir, nous pouvons oublier et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant, il nous regarde en souriant, et il nous parle sans rien dire. Et moi je l'écoute en tremblant, et je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés. Oui, je lui crie, pour toi, pour moi et pour tous les autres, que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois. Reste là, ne bouge pas, ne t'en va pas. Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié, toi ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre, ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin toujours et n'importe où, donne-nous signe de vie, beaucoup plus tard au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgis soudain, tends-nous la main et sauve-nous. Vous voyez ? Donc il prie l'ange de l'amour. Hein. Vous savez, on dit on ne peut pas être et avoir été, et c'est faux. Hein. Moi je pense qu'on peut être pour avoir été, pour avoir été. Hein. Il y a eu quelque chose et ça ne peut pas nous être enlevé. Un sage antique qui s'appelait Agathon disait « Dieu nous-mêmes ne peut pas être, ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été ». Donc, essayons de garder en soi l'image des commencements. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention.